Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est 13h en temps universel et 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Contner.
Une demi-heure américaine sur RFI durant laquelle nous appellerons notre correspondant pour parler de la présidentielle en Uruguay. Dernier jour de campagne avant le second tour dimanche, les sondages sont serrés, mais la gauche espère pouvoir l'emporter et imposer une alternance. Au sommaire également, Haïti où décidément les propos d'Emmanuel Macron ne passent pas. Haïti où les artistes du Centre d'art de Port-au-Prince tentent de faire vivre la culture dans un contexte très très défavorable. Vous entendrez tout à l'heure son directeur. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Tessa Gromane, vous nous parlerez de l'inauguration de ce nouveau centre de soins en Martinique.
Oui, sa particularité, il soigne des maladies liées à l'environnement, comme le cancer de la prostate, provoqué notamment par l'usage du pesticide chlordécone dans les bananeraies.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Pour commencer, l'onde de choc des mandats d'arrêt de la CPI contre des responsables israéliens.
Oui, la Cour pénale internationale a donc émis des mandats contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre à Gaza. Les juges recherchent aussi le chef de la branche armée du Hamas. Il aurait été tué lors d'une frappe israélienne, mais les juges n'en ont pas la preuve. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a exhorté hier les États membres de la CPI à se conformer aux mandats d'arrêt émis. Karim Khan qui aura du mal à faire aboutir sa procédure. Explication à la haie de Stéphanie Maupa.
Dans cette affaire, le procureur aura besoin d'alliés, d'autant que Washington n'a pas caché son opposition au mandat de la Cour. Karim Khan aura besoin de la coopération des 124 États membres de la CPI, c'est certain, mais les positions sur ce dossier sont loin d'être unies. Une dizaine d'États, comme par exemple la Hongrie, s'opposent à l'intervention de la Cour dans le conflit israélo-palestinien. Dans un communiqué diffusé hier, Karim Khan a aussi demandé la coopération des Palestiniens et d'Israël, rappelant qu'il enquêtait à charge et à décharge, une quasi-invitation pour Israël à fournir des pièces contre les responsables du Hamas. Le procureur a aussi indiqué qu'il continuerait d'observer si des enquêtes sont conduites en Israël. Si l'État hébreu veut obtenir le dessaisissement de la Cour, il lui faudrait enquêter à son tour sur les mêmes faits et contre les mêmes suspects. L'enquête ouverte en 2021 se poursuit. De nouvelles lignes d'investigation ont été ouvertes, a annoncé hier Karim Khan. Il a rappelé que ces enquêtes visent les auteurs de crimes commis dans tout le territoire occupé, y compris Jérusalem-Est. Stéphanie Mopala et RFI.
Depuis l'annonce de la CPI il y a 24 heures, c'est une avalanche de réactions à travers le monde, avec parmi les dernières, celle de la Chine, qui ne condamne pas la CPI, mais lui demande, je cite, d'avoir une position objective et conforme au droit. Un certain malaise aussi parmi les pays européens, membres de la juridiction. La prudence est de mise à Paris, où le Quai d'Orsay prend acte de la décision et rappelle son attachement, je cite toujours, au travail indépendant de la CPI. Quant à l'Iran, le chef des gardiens de la Révolution estime que ses mandats d'arrêt signifient ni plus ni moins que la mort politique d'Israël.
Satisfaction en Jordanie également.
Oui, le royaume hachémite où l'annonce des mandats lancés par la CPI a été accueillie avec enthousiasme. Des milliers de manifestants ont salué une revanche prise sur Israël. Reportage à Amman de notre correspondant Mohamed Erami.
Des milliers de Jordaniens sont descendus dans les rues pour exprimer leur joie face à la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ex-ministre Yoav Gallant. Les Jordaniens présents à ce rassemblement considèrent cela comme une revanche contre le gouvernement israélien. Omar et Nabila, deux manifestants.
Et c'est une victoire symbolique pour le système international. Et cette décision est un coup dur pour Israël, montrant qu'il n'est pas en mesure de contrôler et dominer le monde.
La décision ne suffit pas à punir ces criminels qui ont tué plus de 40 000 Palestiniens. Le monde entier doit tenir Israël responsable.
Le bonheur en Jordanie n'était pas seulement populaire, mais aussi officiel, puisque le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, a déclaré que la décision de la Cour pénale internationale devait être un message au monde entier pour prendre des mesures concrètes afin de stopper les massacres commis par Israël contre le droit international et de mettre fin à l'utilisation du blocus comme une arme contre les Gazaouis.
La Cour pénale internationale est une organisation internationale professionnelle, régie par des lois et des principes de travail. Nous réaffirmons la nécessité de respecter ces décisions et de laisser la justice suivre son cours. Chaque individu doit être tenu responsable de ses actions.
La Cour pénale internationale enverra le mandat d'arrêt aux 124 pays qui font partie du statut de Rome qu'a établi la Cour, y compris la Jordanie. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Au lendemain des déclarations martiales de Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense s'est rendu ce matin sur un poste de commandement dans la région de Koursk, là où les forces ukrainiennes occupent depuis l'été dernier des centaines de kilomètres carrés. Andriy Belousov a affirmé que son armée avait fait échouer les plans militaires de l'Ukraine pour l'an prochain du fait de ses avancées sur le front. Propos tenus au lendemain du tir d'un nouveau missile balistique vers l'Ukraine et des menaces de Vladimir Poutine pour qui la guerre a pris un caractère mondial.
En Serbie, la colère ne retombe pas.
Ouais, c'était il y a 3 semaines. 15 personnes, dont plusieurs enfants, avaient été tuées dans l'effondrement d'un auvent en béton dans la gare de Novi Sad, dans le nord de la Serbie. Depuis, l'opposition et les collectifs citoyens dénoncent le népotisme ainsi que la corruption qui ont conduit, selon eux, à la catastrophe. Daniel Valo, de nouvelles manifestations ont lieu ce vendredi dans plusieurs villes de Serbie.
Oui, à 11h52 précisément, l'heure à laquelle l'auvent de la gare de Novi Sad s'est effondré, les manifestants ont observé 15 minutes de désobéissance civile, 15 minutes pour chacune des victimes de cet accident dramatique qui a profondément bouleversé la Serbie et qui suscite énormément de colère parce que la gare où s'est déroulé le drame venait tout juste d'être rénovée. Depuis 3 semaines, des manifestations ont lieu à Novi Sad, donc, mais aussi à Belgrade, sous le mot d'ordre « La corruption tue ». Que demandent l'opposition et les collectifs de citoyens qui se sont emparés de l'affaire ? D'abord que la transparence soit faite sur les travaux de rénovation qui ont été menés dans la gare, ensuite que la justice soit rendue et que les responsables de la catastrophe soient poursuivis. Alors, devant l'émoi suscité par le drame, le gouvernement a d'abord tenté de temporiser, puis un coup d'accélérateur a été donné hier avec une douzaine d'interpellations, dont l'ancien ministre de la Construction qui avait démissionné quelques jours après la catastrophe. L'opposition réclame cependant la démission du Premier ministre Milos Vucic, qui fut maire de Novi Sad durant durant une décennie. Également dans le collimateur des manifestants, le président serbe Aleksandar Vučić, accusé d'avoir multiplié les travaux d'infrastructures ces dernières années sans se soucier de transparence, en particulier lorsque les chantiers sont confiés à des entreprises chinoises de plus en plus présentes en Serbie.
Daniel Valo, merci.
On va parler d'économie maintenant et du Bitcoin qui bat record sur record.
Oui, il se rapproche vers le seuil historique des 100 dollars, des 100 000 dollars plutôt. Le Bitcoin, dopé par la victoire de Donald Trump et par la perspective d'un assouplissement de la régulation, d'autant plus Nathalie Vitran, que le gendarme américain des marchés financiers vient d'annoncer sa démission.
Gary Gensler, c'est son nom, inconnu du grand public, mais bête noire des crypto-bros et des spéculateurs en tout genre. Il était à la tête de la puissante SEC, la Securities and Exchange Commission. Voilà comment, en septembre, il décrivait sa mission.
We are law enforcement agency.
Notre agence fait respecter la loi. Le Bitcoin va fêter ses 16 ans. C'est indéniablement une innovation, mais les innovations ne durent pas si on ne peut pas leur faire confiance. La voiture n'aurait pas survécu sans feu tricolore, sans code de la route, ou même sans policiers au croisement pour éviter les accidents.
Une approche stricte destinée à protéger le public et les investisseurs, y compris d'eux-mêmes, qui a poussé la SEC à attaquer en justice plusieurs plateformes de crypto-monnaie accusées d'opérer en dehors du cadre légal. Une approche très critiquée aussi par les crypto-enthousiastes, ceux-là même qui ont contribué à porter Donald Trump au pouvoir. Le président élu leur a promis d'assouplir la régulation sur les crypto-monnaies.
Plutôt que de nous en prendre aux industries d'avenir, nous allons les adopter. Nous ferons de l'Amérique la capitale mondiale des cryptos et du Bitcoin.
Pour le plus grand plaisir des spéculateurs, le Bitcoin a bondi de 40% depuis la victoire de Trump. En démissionnant, Gary Gensler prend acte du changement à venir. Sa démission est d'ailleurs prévue pour le 20 janvier, à minuit, au moment pile où Donald Trump doit entrer à la Maison-Blanche.
Nathanaël Vitran du service économie. Maintenant, la suite des RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Prochain journal dans 50 minutes sur RFI. Et nous sommes ensemble pour 20 minutes encore sur le continent américain jusqu'à 13h30 temps universel.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on va prendre la direction des États-Unis pour commencer, pour parler politique. Le retrait de Matt Gaetz qui renonce au ministère de la Justice. Premier faux pas de la valse des nominations Trump à Washington. C'est à lire dans la presse, Vincent Souriau.
Et c'est même un revers majeur d'après le New York Times. Gaetz a dû jeter l'éponge visé par une enquête du comité d'éthique de la Chambre des représentants. Présumé innocent mais soupçonné de relations sexuelles avec une jeune fille mineure. 17 ans à l'époque des faits. Usage de drogue. Cadeau douteux à ses proches. Bref, trop de casseroles. Il n'aurait jamais passé le test du Sénat qui doit entendre l'ensemble du futur cabinet Trump avant de valider ses nominations.
Il s'est donc retiré de la course et il laisse la place à Pam Bondi, une magistrate conservatrice de Floride, très vite désigné par Donald Trump pour le remplacer.
Oui, et ce qu'on entend à Washington, nous dit USA Today, c'est un immense soupir de soulagement. Il est évident, écrit à Nicole Russell, même pour nous qui avons voté pour lui, pour Donald Trump, que Trump a besoin de garde-fous, aussi bien dans son intérêt que dans celui de la nation tout entière. C'était un test critique pour les institutions, ajoute le Washington Post. Pour l'instant, le système a gagné. Gaetz, le provocateur professionnel, sous-qualifié et d'un tempérament inapte aux plus hautes fonctions judiciaires, n'aurait servi qu'à punir les ennemis de Donald Trump. Mais attention, prévient encore Ruth Marcus dans cette tribune, Pam Bondi c'est toujours mieux que Matt Gaetz, à condition que les sénateurs soient très clairs avec elle. Elle doit travailler pour les États-Unis, pas pour Donald Trump.
D'accord, mais est-ce que c'en est fini de Matt Gaetz à Washington ?
Eh bien, voici 5 possibilités explorées par The Hill, le quotidien politique de DC. Petit 1, un autre rôle pour Matt Gaetz au sein de l'administration, à la Maison-Blanche ou ailleurs, mais un poste qui n'a pas besoin d'être validé par le Sénat. Petit 2, faire campagne pour devenir gouverneur de Floride, pourquoi pas. Le mandat du gouverneur actuel Ron DeSantis prend fin en 2026. On a déjà entendu dans le passé que Gaetz pourrait se mettre sur les rangs, mais ce rapport explosif de la Chambre des représentants à propos de ces dérapages sexuels va le poursuivre pendant longtemps. Petit 3, pourquoi pas un retour à la Chambre des représentants. Justement, Matt Gaetz en a démissionné, mais il pourrait tenter de se faire réélire lors d'une élection partielle. Petit 4, une carrière dans les médias, et pourquoi pas à RFI, sait-on jamais. Petit 5, un siège au Sénat, pas impossible, mais très difficile, parce qu'on lit dans cet article de De Hill que Matt Gaetz est devenu toxique, tout simplement.
Voilà, l'administration Trump qui prend forme et l'inquiétude qui grandit. Pour tous ceux qui ne font pas partie du cercle du président élu ou de sa base électorale, les immigrés avaient été particulièrement visés pendant sa campagne. Donald Trump a parlé d'eux comme des criminels, comme des violeurs. Il a multiplié les déclarations haineuses, notamment contre les Haïtiens. On en avait beaucoup parlé ici. Et il a promis une opération d'expulsion jamais vue aux États-Unis. On estime qu'au moins 11 millions de personnes vivent dans le pays sans titre de séjour légal. Alors, dans les villes qui comptent beaucoup de personnes sans papier, on se prépare. Reportage à Los Angeles, en Californie, où le conseil municipal vient de voter une mesure pour protéger ces immigrés, quitte à désobéir à la future administration. Loïc Piala.
OK, it is passed.
13 voix pour, 0 contre, l'unanimité du conseil municipal pour faire officiellement de Los Angeles une ville sanctuaire. C'était déjà le cas, mais ce statut n'était pas encore ancré dans les textes. Un message envoyé aux sans-papiers et à leurs proches, insiste cette conseillère municipale.
De la nourriture dans nos assiettes à tous les autres secteurs économiques, 1,3 million immigrés font tourner Los Angeles et font de cette ville la meilleure du pays. Aujourd'hui, nous disons à cette communauté, le conseil municipal se tient à vos côtés.
La Cité des Anges ne mettra pas ses ressources en personnel ou en équipement au service de l'État fédéral, alors que la future administration Trump prépare l'expulsion de millions de personnes. La police de Los Angeles ne coopérera pas non plus avec les autorités fédérales, sauf que Tom Homan, l'homme chargé par Donald Trump de superviser ces expulsions, le répète depuis des jours à la télévision, rien ne l'arrêtera.
Si vous ne nous aidez pas, dégagez du chemin. Peut-être qu'on enverra 2 fois plus d'agents à New York ou ailleurs s'il le faut. Parce que nous allons terminer le travail et nous le ferons avec ou sans l'aide de ces villes.
Et Donald Trump n'exclut pas de déclarer un état d'urgence national, ce qui lui permettrait de mobiliser l'armée pour assister les services de l'immigration dans leurs tâches. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
8h14 en Haïti. Haïti, après la sortie polémique d'Emmanuel Macron, on vous retrouve pour en parler, Vincent Souriau. Les autorités haïtiennes font une mise au point.
Et oui, rappel pour ceux de nos auditeurs qui seraient passés à côté, le président français filmé en marge du G20 à Rio s'est hasardé à déclarer que les membres du conseil présidentiel de transition en Haïti étaient, je cite, complètement cons d'avoir révoqué le premier ministre Gary Conille. Réaction immédiate à Port-au-Prince hier avec la convocation de l'ambassadeur de France en Haïti, sommé de s'expliquer au ministère des Affaires étrangères. Dans leur communiqué, les autorités haïtiennes parle de propos inacceptables, d'un geste inamical, inapproprié et qui mérite d'être rectifié. Antoine Michon, le représentant français, a reconnu que les propos d'Emmanuel Macron étaient malheureux et il a promis que la France resterait toujours aux côtés d'Haïti pour faire avancer la transition.
Voilà pour la politique dans un pays où les gangs étendent chaque jour un peu plus leur emprise. Et le journal Le Nouvelliste revient par exemple sur le cas de Gressier, dont le centre-ville est occupé par un gang depuis le mois de mai dernier. L'état-major de la police police a oublié Gressier, résume un agent local, et la route vers le Grand Sud reste coupée. Dans ce contexte extrêmement difficile, des artistes tentent de résister, de poursuivre leur travail, et notamment au Centre d'art de Port-au-Prince. C'est l'un des lieux phares de la culture haïtienne, à la fois une galerie et une école, dirigée par Alenby Augustin, qu'a rencontré Olivier Roger.
Bonjour Alenby Augustin. Alors, expliquez-nous comment le Centre d'art de Port-au-Prince s'en sort dans cette période critique aujourd'hui en Haïti.
Il faut dire que c'est une situation qui est extrêmement difficile pour nous au Centre d'art. Nous avons à un moment donné arrêté toutes nos activités en présentiel au centre parce que ça a été très difficile d'accès. Mais aujourd'hui, nous avons repris en présentiel tout en renforçant notre sécurité.
Concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, vous sortez de chez vous en toute sécurité ou vous craignez pour votre vie?
Mais ça fait longtemps qu'on ne sort pas en toute sécurité en Haïti, principalement à Port-au-Prince. On est obligé de préserver l'espace même du bâtiment du Centre d'art et de préserver aussi la vie des employés. On est dans une situation ambiguë et où on ne sait pas vraiment comment se positionner et comment fonctionner, mais on est chaque jour aussi dans une forme d'invention, donc on est obligé de s'adapter, de nous adapter.
Et avec ces gangs qui contrôlent aujourd'hui une partie de Port-au-Prince, vous avez été obligé d'aller dialoguer avec eux, de leur expliquer ce que vous faites, de leur dire « laissez-nous travailler », comment ça s'est passé?
Ah non, pas du tout. Il faut comprendre, on est dans une situation très compliquée. Quand tu as une capitale qui est contrôlée par 80% des gangs, c'est eux qui dirigent. Et puisque c'est eux qui dirigent, je ne pense pas qu'eux, ils vont comprendre qu'il y a une nécessité de laisser un centre culturel ou bien un centre artistique, un espace de création ouvert. Je ne pense pas. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de garder un peu le profil bas. Et je pense que les gangs sont au moins au courant que ça, c'est une activité qui ne dérange pas. On est au centre-ville de Port-au-Prince et le bâtiment reste intact. Et nos collections sont intactes pour le moment. Donc, on va essayer de continuer comme ça.
Alors justement, dans cette situation, quelles activités pouvez-vous mener actuellement?
Nous avons repris nos cours parce que le Centre d'art, il faut comprendre, pour faire cette promotion de l'art haïtien, nous avons travaillé avec des professeurs, des artistes qui sont revenus au Centre d'art, former la nouvelle génération. Donc du coup, il y a des cours. Et aussi, on a repris nos activités de ciné-club. C'est un espace où on projette des films d'art et après, on invite le public et des intervenants à discuter un peu sur le sujet et présenter lors du ciné-club. Après, nous avons aussi, en dehors de cela, d'autres activités de discussion avec des artistes, où on invite un artiste de temps en temps, une fois par mois, à parler de son travail.
Et pour ce qui est du financement, vous arrivez toujours à vous financer, vous êtes épaulé, aidé?
Il faut dire que le Centre d'Or reste ouvert aujourd'hui grâce au soutien de deux grandes institutions, de la Fondation Carasso, qui est une fondation qui est en France, ici, et aussi en Espagne, je crois, et de la Fondation Connaissance et Liberté Focale. C'est deux grandes institutions qui soutiennent les activités du Centre d'Or aujourd'hui.
L'art est une forme de résistance politique pour vous?
Moi, je pense que l'art est une forme de résistance tout court. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, qu'il y a des artistes qui ont pu continuer à créer dans cette situation, je pense que ça prouve effectivement que ça aide en fait à résister. Il y a des gens en Haïti qui sont là, qui continuent en fait de faire leur travail, continuent de montrer des côtés positifs de ce pays-là, de ce beau pays. Il ne faut pas qu'on perde ça. Donc je veux dire au monde, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que je crois qu'il y aura vraiment un demain meilleur. Merci.
Merci à vous.
Alenby Augustin, directeur du Centre d'art de Port-au-Prince, l'un des lieux phares de la culture haïtienne. Il répondait à Olivier Roger.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Dans l'actualité du continent également, il y a ce message plutôt inattendu de la présidente de la Chambre des députés du Chili hier, lors d'un discours devant Emmanuel Macron qui est en visite dans le pays pour deux jours. Bonjour Naïla de Rouanet.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondante au Chili où cette parlementaire communiste a terminé son discours en parlant de l'importance historique des femmes françaises, notamment en évoquant Gisèle Pélicot, cette femme dont le mari est jugé en ce moment car il l'a droguée pendant une dizaine d'années pour la soumettre au viol de dizaines de personnes.
Et oui, tout à fait. Carole Cariola, après avoir parlé des liens forts qui unissent la France et le Chili, eh bien, elle a souhaité faire honneur à de grandes figures féminines françaises, en mentionnant d'abord Marie Curie, Olympe de Gouges, puis Simone Veil, et enfin cette citoyenne commune, Gisèle Pélicot.
Elle a donné une leçon au monde entier. Les victimes de violences sexuelles ne doivent pas avoir honte. Ce sont les agresseurs qui doivent se sentir honteux. Gisèle Pellicot a été un exemple de courage et de dignité pour les femmes du Chili et du monde entier. Que la honte change de camp.
Et au Chili, Naïla, comme dans beaucoup de pays, la population et les médias suivent ce procès de Mazan.
Oui, à la télévision, dans les journaux, on parle du procès, mais surtout de Gisèle, admirée par beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux, où on peut lire de nombreux messages de soutien. Ce procès qui fait écho à une autre affaire en ce moment au Chili et qui concerne un ancien membre du gouvernement du président Boric. Il s'agit du cas Monsalvé, du nom de l'accusé. Ce désormais ex-sous-secrétaire est accusé de viol et d'abus sexuels par l'une de ses anciennes conseillères. Et un point commun avec l'histoire de Gisèle Pellicot, c'est que la victime chilienne était incapable de donner un consentement clair au moment du viol supposé, car sous l'emprise de l'alcool. Et tout comme en France, la question du consentement est donc revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines au Chili, car la législation chilienne ne définit pas clairement le consentement lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. Quant à la honte qui doit changer de camp, une avocate chilienne, membre d'un collectif féministe, s'interroge tout de même et se demande comment cela pourra-t-il être possible en France, car la loi, là-bas, protège l'identité des accusés en interdisant de les prendre en photo ou même de divulguer leur nom.
Naïla de Rouanet, correspondante de RFI au Chili. Il est 13h22 en temps universel. Quelques mots encore de l'actualité du continent et notamment du président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui s'est félicité de l'ouverture d'une nouvelle étape dans ce qu'il appelle une puissante alliance avec l'Iran, et ce après la signature de nouveaux accords entre les deux pays qui affichent un front commun contre les États-Unis. Depuis le Venezuela et depuis l'Iran, nous disons non à l'hégémonisme, non à l'impérialisme, non au colonialisme, a dit Nicolas Maduro, en faisant référence notamment aux sanctions imposées par les États-Unis. Et puis en Colombie, 4 militaires tués dans le nord du pays dans une attaque attribuée à la guérilla de l'ELN. C'est l'armée qui l'a annoncé hier en dénonçant une attaque terroriste et lâche à l'aide d'engins explosifs.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la Première, et on vous retrouve Tessa Groman pour parler d'abord de la Martinique où un nouveau centre de soins a ouvert hier. Il concerne les pathologies professionnelles et environnementales.
L'établissement prend en charge le diabète ou le cancer de la prostate, par exemple, des maladies liées au mode de vie et à l'environnement. Christine Cupit, Martinique la Première.
À l'origine de ce projet, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Yvon Sérénus, président du collectif.
On a déjà envoyé une bonne centaine de personnes dans ce centre des ouvriers agricoles et quelques non-ouvriers agricoles aussi. Parce qu'il y a les riverains, il y a des personnes qui ne sont pas ouvriers agricoles, ils ont un taux de pesticides très important dans leur sang.
Parmi les pathologies liées aux pesticides et notamment à la chlordécone, il y a le cancer de la prostate. Le diabète aussi est une maladie environnementale. Professeur d'abord Rizière du Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales.
65% de notre population ont le diabète. Ça a quelque chose à voir avec la façon de vivre, le mode de vie des gens. La majorité de nos pathologies, de nos maladies viennent de l'environnement.
70% des patients admis aux urgences ont une maladie liée à l'environnement. C'est pourquoi il est prévu d'ouvrir un service hospitalier de médecine environnementale au Lamantin d'ici 2026 pour les pathologies causées par les pesticides, les sargasses et les morsures de serpents.
Christine Cupit, Martinique la Première. Il était assigné hier devant le tribunal de commerce. Le groupe Ayotte, principal acteur de la grande distribution en Martinique, a obtenu que son affaire soit renvoyée au 19 décembre prochain. À l'initiative de cette convocation, 4 lanceurs d'alerte qui veulent contraindre le groupe à rendre public ses comptes annuels. Et cela dans un contexte de lutte contre la vie chère dans le département français des Antilles. Le premier vaccin contre le chikungunya est désormais disponible en pharmacie dans l'Hexagone. Il n'est pas encore remboursé. Question, peut-on le trouver en Guadeloupe, où cette maladie transmise par le moustique a déjà frappé par le passé? On se souvient de l'épidémie aux Antilles et en Guyane en 2014, Sébastien Gilles.
Cette année-là, en Guadeloupe, près d'une personne sur deux avait contracté ce nouvel arbovirus. Alors si l'immunité collective en Guadeloupe, 10 ans après l'épidémie, reste encore certainement importante, l'intérêt du vaccin réside surtout chez les personnes les plus fragiles ici ou non présentes lors de l'épidémie en 2014. Reste que le produit n'est pour le moment pas remboursé en ville par la Sécu et le prix de vente est à la discrétion des officines. Contactés par nos soins, les 3 importateurs grossistes du secteur pharmaceutique n'ont pour l'heure pas donné suite à nos demandes d'informations pour savoir si le vaccin est effectivement disponible en pharmacie de ville en Guadeloupe. Pour les établissements de santé, l'agrément n'est pas encore accordé. Une demande est en cours.
Sébastien Gilles, Guadeloupe la première. Et pour rappel, le chikungunya est une maladie transmise aux Antilles par le moustique tigre, également vecteur de la dengue et du Zika.
Merci Tessa Groman et bonne journée. De la musique avant de se quitter, le groupe de rock indépendant des États-Unis Modest Mouse qui sera en concert ce soir à New York. Voici le morceau Dramamine. Avec le groupe américain Modest Mouse que se termine RFI Midi pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 11h30, temps universel. Cette émission a été réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. Voilà, très bonne journée à tous. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes maintenant, Littérature sans frontières avec Catherine Fréchon-Toussaint.
RFI, la sélection du mois.
Majrou Sultan Puri et Ordi Bourman. Clou.
RFI Musique.
8 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Comment reconstituer et transmettre son histoire familiale? Faut-il vraiment faire parler les anciens du passé? Quand documenter la vie de ses ancêtres s'inscrit aussi dans l'histoire de l'humanité?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.